Bonjour et bienvenue, c'est Comme un bruit qui court, le magazine de reportage du samedi sur France Inter, du son et du sens.
En direct du studio 511, une émission réalisée par Jérôme Chélus, assisté de Lucie Spindler et avec à la technique aujourd'hui Michel Bézikian et Éric Morin.
Au sommaire cette semaine, le procès du flashball, histoire et déboire d'une invention française.
Flashball, double cadran, toujours, pour avoir deux coups. Même principe qu'un fusil de chasse, on peut doubler.
Et aujourd'hui, on a recensé 44 personnes qui ont perdu un œil ou l'usage d'un œil en France depuis 2007.
Voilà, bing.
Point visé, point touché. Ouais. Hein, en plein dans le thorax. Hein.
Ouais, thorax. Ouais.
Sans justice, vous n'aurez pas la paix.
Dites-moi, monsieur, c'est sérieux les bruits qui courent ?
Comme un bruit qui court à 324 km/h. C'est la vitesse à laquelle le flashball vient, je cite, neutraliser à distance les individus dangereux pour autrui ou pour lui-même. Aujourd'hui, notre émission vous emmène d'un bout de la chaîne à l'autre, avec ceux qui produisent les flashballs, ceux qui les utilisent et ceux qui les subissent. Car la France a un vrai savoir-faire en matière de maintien de l'ordre et de gestion des foules qui est hélas rarement mise en avant. Charlotte Perry nous emmène donc à Saint-Étienne, chez Vernet Caron, un des principaux fournisseurs de cette technologie française à la conquête des marchés internationaux. Et du fabricant au consommateur final, c'est-à-dire celui qui mange les coups, Antoine Chao nous emmène suivre le procès de trois policiers qui s'est tenu cette semaine à Bobigny pour un usage abusif de cette arme, voilà 7 ans de ça. Procès du flashball pour les uns, procès des violences policières pour les autres. Sur France Inter, jusqu'à 17h, comme un bruit qui court quand le maintien de l'ordre devient fauteur de troubles.
Antoine Chao.
Charlotte Perry.
Guy Montil.
Comme un bruit.
Il a reçu un truc dans la tête. Qu'est-ce qu'il a?
Putain, la vache.
Une compresse. Des mouchards.
Vite.
On s'est fait tirer à la gueule.
Dénoncer les violences policières.
Leur violence, injustifiée souvent, reste impunie toujours.
Au flashball.
Pour moi, le flashball est inutile et dangereux. Nous ne sommes pas des shérifs.
Abdelmoumen Ahmed n'a donc pas survécu à ses blessures.
Il reconnaît avoir visé la tête.
Le tir de flashball lui a sans doute été fatal.
Mais aujourd'hui, c'est l'histoire de cet homme qui concentre l'attention. Joachim Gatti, il refuse que l'on voit son visage.
Les policiers, avec beaucoup de calme, disons, et de détermination, sont venus, se sont garés, sont sortis de leur voiture, se sont équipés de leur flashball. Nous, à ce moment-là, on est partis, ils se sont alignés et ils nous ont tiré dessus. Sans sommation, sans rien. 6 personnes ont été touchées, il y a eu 6 tirs. Moi, j'ai reçu ce tir dans l'œil et donc j'ai eu un œil crevé et je l'ai perdu.
Les armes vont parler.
C'était le 8 juillet 2009 à Montreuil, et 7 ans plus tard, c'est au tribunal de justice de Bobigny que ça se passe. Et sur le banc des accusés, les prévenus sont les 3 policiers qui ont fait feu ce soir-là, 7 ans plus tôt, à Montreuil donc, blessant 6 personnes qui se sont organisées en collectif pour dénoncer l'utilisation d'armes à feu dites non létales, mais qui font de gros dégâts. D'ailleurs, il faut dire à létalité réduite maintenant, puisqu'un mort est déjà comptabilisé. Flashball LDB40, de fabrication française s'il vous plaît, un succès industriel et commercial en France et à l'étranger pour une gestion démocratique des foules, argumente le constructeur Vernet Caron. Ça se discute, et ça s'est discuté justement à Montreuil avec le collectif 8 juillet et au tribunal de Bobigny toute la semaine pour un procès du flashball, ou plutôt des pratiques et violences policières.
Il y a 7 ans de ça, ici même, on faisait une cantine de rue pour protester contre l'expulsion d'un squat qui avait eu lieu le matin même, et on s'est fait tirer à la gueule au flashball. 6 personnes ont été blessées. On va inviter différents collectifs à parler, à la fois des collectifs encore en lutte aujourd'hui à Montreuil, et aussi des gens qui se battent depuis des années contre les violences policières.
Dénoncer les violences policières.
Regarde sa peau. Moi, il y en a encore plus.
Alors aujourd'hui, mercredi, en même temps que le procès est en train de se dérouler à Bobigny, Vous organisez avec le collectif du 8 juillet un rassemblement ici, justement, il y aura des prises de parole, etc. Qu'est-ce qui va se passer exactement?
Ça avait plusieurs buts. Prendre la parole ici à Montreuil, dans la rue. Ça nous paraît important d'être présent dans la rue, de montrer qu'on n'a pas terrifié par la peur, etc. et qu'on peut reprendre la rue. D'autre part, faire entendre des gens qui sont liés à d'autres histoires de violences policières, multiplier un peu les prises de parole autour de ça. Se rallier aussi à comment ça continue depuis 2009, évidemment, la violence policière dans la ville. Par contre, nous, qu'il y ait 3 policiers mis en examen, et 3, et pas juste un seul, et que cette histoire, on puisse la mêler à d'autres histoires de violences policières, ça participe aussi de montrer c'est quoi la construction de l'impunité policière, c'est quoi la construction de ces violences au quotidien, de l'action ordinaire de la police. Parce que si c'est un fait quelque peu exceptionnel qu'il y ait un procès avec 3 policiers mis en examen, la violence qu'ils exercent, par contre, elle est tout à fait ordinaire. Et même là, pendant le procès, les policiers, ils sont incapables de dire quoi que ce soit sur leur action, si ce n'est qu'on faisait une opération de police. Ils sont capables de rien d'autre, de rien justifier d'autre qu'on faisait simplement notre travail. Parce que ce n'est pas des grands criminels qu'on a face à nous. C'est des policiers très ordinaires qui font ce travail ordinaire de la police, qu'on veut dénoncer, attaquer, de ne pas laisser nous faire peur et nous terroriser pour nous laisser enfermer chez nous.
Alors là, c'est le collectif du 8 juillet, donc du 8 juillet 2009.
Voilà, c'est ça, c'est 7 ans après. C'est ça aussi qu'on voulait raconter, c'était aussi de ne pas se laisser complètement enfermer par le temps de la justice, de mener des actions et surtout sortir de l'isolement avec d'autres collectifs, avec d'autres proches.
C'est bien parce qu'on s'est mobilisé, qu'on a fait une manif en partant d'ici le 13 juillet 2009, qu'on a fait tout plein d'actions publiques, qu'il y a eu un procès aujourd'hui et qu'on n'a pas laissé ni Joachim ni toutes les autres personnes blessées, qu'on a tous pu être mutilés ce soir-là, qu'on s'est tous mobilisés, qu'on a pu avoir un procès.
Parce que pour nous, ce soir-là, on s'est tous fait tirer dessus, en fait. Ils ont tiré sur...
Ce 8 juillet 2009.
Ce 8 juillet 2009, on s'est tous fait tirer dessus, en fait.
Et on est tous ensemble dans ce procès, avec toutes les autres victimes de violences policières, parce que justement, si nous, on arrive à avoir un procès, il faut aussi que toutes les autres histoires, éventuellement, puissent se battre, apparaître, pas être déniées.
Justement, aujourd'hui et demain, pour nous, c'était des journées importantes, parce que on a pu faire convoquer par la justice 13 témoins, qui justement sont venus raconter cette violence ordinaire et cette construction de l'impunité policière. Donc des blessés eux-mêmes par des tirs de LBD-40, mais aussi blessés par flashball. Voilà, encore une fois, hein, c'est pas notre volonté d'être spécialiste de la violence policière. Hein. On nous l'a imposé, mais on est aussi porteur de plein d'autres histoires qui sont sans doute beaucoup plus joyeuses et constructives que celles-ci.
Bonsoir. Moi, je m'appelle Pierre, je viens de Nantes. J'ai été blessé en 2007 par un tir de lanceur de balles de défense, donc LBD-40. Donc à l'époque, le LBD-40, donc c'est une arme qui tire des balles en caoutchouc, elle était expérimentale. C'est un petit peu la version améliorée, sophistiquée du flashball, l'arme qui a blessé Joachim et qui a blessé les copains de Montreuil ici en 2009. Et c'était une arme qui dispose d'un viseur militaire, d'un canon rayé, une extension, une sophistication militarisée du flashball. Aujourd'hui, le LBD-40, il est généralisé et c'est celui qu'on a notamment pu voir sur tous les flics qu'on a vus pendant le mouvement social du printemps qui vient de s'écouler. C'est cette arme-là qu'on voit dans les quartiers, c'est cette arme-là qu'on voit dans nos luttes, c'est cette arme-là qu'on voit à côté des stades tirer sur des supporters. Et ce que je voulais dire, ce qu'on est venu dire ici avec d'autres blessés d'un peu toute la France, c'est d'abord témoigner notre soutien avec le collectif 8 juillet, avec Joachim, avec tous les autres qui ont été blessés à Montreuil, parce qu'on s'est constitué en assemblée des blessés depuis plusieurs années pour fédérer les différentes histoires dans toute la France de personnes qui ont perdu un œil ou l'usage d'un œil par des tirs de flashball ou de LBD et d'armes de la police. Et aujourd'hui, on a recensé 44 personnes qui ont perdu un œil ou l'usage d'un œil en France depuis 2007. Sur ces 44 personnes, il y a eu 3 procès, 4 aujourd'hui du coup, et il y a eu 2 condamnations. Dans 90% des cas, il y a une impunité, et voire il n'y a même pas de procès, c'est-à-dire que les policiers ne sont même pas retrouvés. À Nantes, par exemple, le 22 février 2014, il y avait une grande manif contre l'aéroport, il y a 3 manifestants qui ont perdu un œil la même après-midi, il n'y a toujours pas de procès, il y a eu un classement sans suite, et les policiers n'ont toujours pas été retrouvés.
Sans justice, vous n'aurez pas la paix.
Moi, je dis qu'il y a un manque de formation aussi. Je dis qu'effectivement, le flashball, on lui reproche beaucoup de choses, mais on met souvent et systématiquement en avant, entre guillemets, ce qui ne va pas. Et par contre, tout ce qu'il a permis de faire, et on n'en parle jamais. On pourrait s'amuser aussi à faire un portfolio de toutes les coupures de presse qui ont permis effectivement de gérer une situation de façon très très favorable. d'éviter de blesser, d'éviter de donner la mort, etc. Et tout. Mais systématiquement, effectivement, c'est ce qui va pas comme en avant. Je voulais tirer là, mon fiche. Hein, en plein dans le thorax, hein.
Bah ouais, thorax. Oui, mais c'est pas grave.
Et donc tout, alors du coup, des flashballs, vous en avez vendu combien?
Le parc mondial du flashball. Moi, j'ai tendance à dire une centaine de milliers.
100 000.
Ouais. Bah, c'est une réussite française. Hein? Bah voilà. Donc c'est une bonne diversification, on peut rien par la société Vernet Caron à l'époque.
Dans la nuit du 13 au 14 juillet dernier, la police blesse alors un adolescent de 14 ans.
Johan Celsis, étudiant, participait à une action rue Alsace-Lorraine quand il fut victime d'un tir de flashball.
Censé à leur apparition en 1995 être utilisé pour dissiper un attroupement, les lanceurs de balles en caoutchouc sont à l'origine de plusieurs blessures graves.
« 44 blessés graves, dont 23 énucléés. Le procès qui s'est tenu cette semaine au tribunal de Bobigny est aussi celui du flashball. Ce lanceur de balles de défense mis au point au milieu des années 90 comme alternative aux armes à feu. Conçu d'abord pour la défense des particuliers, le flashball a ensuite été développé pour équiper les BAC dans les quartiers dits sensibles, puis généralisé à toutes les polices par Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur. Une véritable aubaine pour l'armurier stéphanois Vernet Caron qui le fabrique et qui lui assure un succès commercial sans précédent. Seulement voilà, aujourd'hui Guillaume Vernet Caron n'est pas content. Mais alors, pas content du tout. Car son joujou est décrié de partout, tant par les associations de défense des droits de l'homme et le défenseur des droits, que par l'IGPN, la police des polices, qui l'estime trop imprécis et réclame son interdiction. Un scandale pour l'armurier français qui défend bec et ongle son bébé et que nous allons rencontrer au siège de son entreprise, entre fusil de luxe et joyeux du savoir-faire sécuritaire, pour revenir sur l'histoire et les déboires de cette belle invention française.
Enfin, c'est insensé. Alors, non seulement moi, je suis le père victime de tout ça, mais en plus de ça, je me fais enguirlander par l'armurier.
Monsieur, j'aimerais bien que vous veniez au magasin pour
discuter. Oui, c'est ça. Je vais venir discuter dans une armurerie. Vous pensez, comme je suis pas fou,
vous
allez me brandir un de vos trucs aussi,
là. Je vais vous brandir un pistolet. Oh non,
je sais bien comment ça se passe.
Prendra
pour lui qui court. Sur France Inter.
On est sur le boulevard Thiers, à Saint-Étienne, et on arrive devant le siège de l'entreprise Vernet Caron, où sont fabriqués les flashballs.
Bonjour.
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 Je suis Madame Dubesset, l'assistante de Guillaume Vernet Caron.
D'accord.
Je vous emmène.
Recevoir dans un instant.
Je vous laisse patienter.
Merci, moi je vais regarder, il y a...
Ah oui, bah oui, là il y a de quoi faire. Déjà.
Des fusils partout, partout, partout. Derrière des portes vitrées, fermées à clé. Il y en a des centaines. Il y a une tête de biche aussi accrochée sur le mur. Un tableau qui représente des parties de chasse. Bonjour.
Là, on est dans la salle d'armes. Là, c'est vraiment la partie plutôt chasse, donc c'est vraiment plutôt le cœur historique de Vernet Caron.
C'est impressionnant, et là, c'est des fusils qui sont fabriqués depuis combien de temps ?
Voilà, on est sur le siècle dernier, on est début 1900, mais la grosse partie de la collection Vernet Caron, elle se trouve au musée d'art et d'industrie à Saint-Étienne. Et puis, on a quand même les dernières nouveautés aussi en vitrine. Là, on est plus sur la partie armes très artisanales, donc ce qu'on appelle l'atelier Vernet Caron. Ce sont des armes fabriquées récemment, mais qui restent de très traditionnelles.
C'est fait à la main ?
Ah, complètement. Alors là, vous voyez les morceaux de bois qu'on utilise pour démarrer les crosses.
Et vous, vous êtes
Guillaume Vernet Caron, directeur général de la société. Alors moi, je suis DG depuis 2 ans et demi. Je suis rentré au départ pour booster l'export et donner un engagement international à Vernet Caron.
Et du coup, aujourd'hui, il y a combien de personnes qui travaillent ici ?
Aujourd'hui, on est 85. 85 personnes chez Vernet Caron sur un seul site. Ah, c'est typique de la PME familiale française. Ouais. Bah, avec diverses générations qui cohabitent aussi dans l'entreprise. Parce que ce qui compte, quelque part, c'est la pérennité de l'entreprise, c'est aussi de transmettre quelque chose derrière aux générations suivantes.
Ça fait combien de générations que c'est comme ça ?
Or aujourd'hui, si on démarre depuis 1820, ça fait 6. Et après, c'est vrai qu'en termes de généalogie, sur Saint-Étienne, on est remonté jusqu'à 1650, où on était déjà faiseur de fusils ou faiseur de canons. C'était Armeville, Saint-Étienne.
Armeville ?
Ben, c'était comme ça qu'elle était surnommée, ouais. Effectivement, il ne reste plus grand-chose. Mais quoi qu'il en soit, les gènes restent.
Et maintenant, c'est Flashball City.
On a su saisir l'opportunité qui nous avait été présentée de mettre un pied sur le marché, entre guillemets, de la sécurité avec le flashball, clairement, oui.
Parce que le flashball, il a été inventé ici, en fait.
Alors, le flashball, c'est un concept, nous, qu'on nous a présenté, hein, d'accord, hein. C'était un expert auprès des tribunaux qui est venu nous voir à l'époque parce qu'il en avait effectivement un petit peu marre de voir des bavures, d'accord, avec les armes de service. Et de là, on l'a aidé, on a fait notre métier de fabricant d'armes et de concepteur. Donc on a conçu, redéveloppé un lanceur à létalité réduite fin des années 90. Il se place entre l'arme de poing, ok, et la matraque. Et dans cette catégorie de moyens de force intermédiaires, aujourd'hui, on a plusieurs produits. On a le produit Flashball, ok, qui est une marque propre qui appartient à Vernet Caron, qui est un produit bien distinct. On a le LBD-40 aujourd'hui, on a les lance-grenades Cougar, Chouka, etc. Et on a le pistolet à impulsion électrique, le fameux Taser. Ça fait 4 armes. Tout ça destiné à l'équipement des forces de l'ordre.
Est-ce que, par exemple, les commerçants, est-ce qu'ils peuvent acheter des flashballs aussi ou...
Les commerçants, comme les particuliers, ils ont accès à un flashball qu'on appelle flashball compact, que vous et moi pouvons acheter en armerie et que nous pouvons détenir à la maison... la défense personnelle, plutôt que d'utiliser son fusil de chasse qui causerait des dégâts, pour le coup, irréversibles.
Avec le flashball aussi, il peut y avoir des dégâts irréversibles.
Oui, ça dépend. Ça dépend s'il est bien utilisé ou pas. C'est toujours pareil. On peut en parler, ouais, effectivement.
On peut visiter, comme ça je les vois, parce que j'en ai jamais vu.
Vous ne connaissez pas, on peut faire un petit coup.
Ah, que la chasse est un sport attachant. Rien n'est plus beau que la chasse. C'est bon de marcher des heures à travers champs, dans la bonne terre grasse. On a mal aux pieds, ça ne fait rien. C'est pour le gibier que l'on vient. Bon, en plein dans le mille, je l'ai mon perdreau. Ah non, c'est un corbeau, comment que ça se fait? Bon, en plein dans le mille. Oh, mais qu'est-ce que ce chat faisait là? Puis on va plus loin, ça y est, voilà le bon coin. C'est par là que les sangliers passent. Tiens, tiens, dans le fourré, un bruit et vous tirez. Mais qu'est-ce qu'il faisait là, le garde-chasse? Bon, en plein dans le mille, y a plus qu'à tirer un chèque non barré. Pour cette espèce d'imbécile, la chasse est un sport difficile.
Là, tous les portraits, c'est la famille. Jean Vernet Caron, Claude Vernet Caron. Jean Vernet Caron, Claude. Ah, c'est tout. Jean Vernet Caron, Claude Vernet Caron.
C'est Claude Jean.
Vous êtes la seule exception ?
Oui, c'est ça, mais moi, je suis dans une branche différente, donc je ne suis pas obligé de porter le prénom. Là, on rentre dans l'usine. À droite, vraiment la partie atelier Vernet Caron, donc le très haut de gamme, l'armurerie de luxe. Ici, on a toute la partie montage, donc là, on est sur le montage d'armes de série, on va dire, donc semi-industrielles.
C'est un grand atelier avec encore les...
Bah, c'est le grand atelier historique stéphanois avec des grandes verrières, de façon à profiter au maximum de la lumière du jour. Et oui, ça fait des économies d'énergie, tout ça. Donc on est clairement dans une entreprise de mécanique de précision. Hein. Notre métier, c'est, entre guillemets, c'est faire du copeau, hein, quelque part. Des pièces brutes et on enlève de la matière, on perce des trous, etc. On fait de la mécanique. Hein. Une arme est composée de 140 pièces à peu près. Il y a beaucoup de pièces métalliques ou aluminium. Il y a le travail du bois, mais il y a également le travail du métal.
Ça se vend combien après ?
Une arme de chasse Vernet Caron en moyenne en armurerie, on va la retrouver autour de 1 500 €. L'arme artisanale, il n'y a pas vraiment de prix moyen et il n'y a pas vraiment de limite non plus. C'est le client qui fait son arme, donc quelque part, c'est lui qui fait son prix. Après, ça dépend de ses moyens. Pour l'arme la plus chère qu'on a dû vendre chez Vernet Caron, elle devait avoisiner les 150 000 €.
Vous avez vendu ça à qui ?
Ah, ça c'est top secret. Il y a certains clients qu'on garde secret. Celui-ci en l'occurrence on le garde secret. Donc c'est une arme qui est lac de Chine complètement. Avec la mallette faite sur mesure, tous les accessoires briquets, cendriers.
C'est client Moyen-Orient ça.
Même pas. Il est français. Les Moyen-Orient, on travaille très peu en fait. Hein. Quelque part, c'est des gens qui connaissent pas grand-chose aux armes. Et nous, on aime bien quand même vendre nos armes à des gens qui les utilisent et pas uniquement pour les mettre dans un salon pour faire joli. Quoi. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup plus sur le marché américain, parce qu'en face de nous, on a vraiment des connaisseurs de l'arme, vraiment capables de reconnaître la beauté d'une arme. Afrique du Sud, c'est pareil. Australie, on a à peu près le même genre de clientèle. Et c'est vrai que le Moyen-Orient, on a vendu très très peu d'armes jusqu'à maintenant. Hein. C'est pas spécialement les zones qui m'intéressent en termes de prospection.
Parce que là, c'était pas évident de vous rencontrer. Là, les trois derniers rendez-vous, finalement, c'est annulé parce que vous étiez en déplacement. Vous étiez en Indonésie, au Mexique, en Asie.
Parce qu'on part pour le monde, on va là où sont nos clients, on va là où est la demande émergente aussi. Indonésie, Mexique, c'est Afrique du Nord, Afrique centrale. On a équipé à peu près toutes les polices de grandes capitales européennes aussi. Après, on y va essentiellement effectivement pour l'activité sécurité. Et flashball. Et puis une fois qu'on a vendu un parc de flashball, après on vend beaucoup de munitions. Forcément.
On va tirer une petite corde et
il y a
ça s'ouvre. On va rentrer dans une autre partie.
Une autre partie d'activité et puis on va aller au local flashball.
Parlons ensemble de l'utilisation des flashballs. Bonjour Nicolas Comte.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire général adjoint du syndicat Unité SGP Police FO. Pourquoi est-ce qu'on parle flashball avec vous? Parce qu'hier, le défenseur des droits, Jacques Toubon, a rendu un rapport très sévère hein, sur l'utilisation qui en est faite. Il réclame l'interdiction de cette arme, selon lui, arme imprécise qui provoque de graves lésions. Est-ce que c'est une arme inadaptée, le flashball?
Il y a deux problèmes. Il y a un problème de manque d'entraînement, parce que vous devez subir 3 heures de recyclage tous les 2 ans. Vous tirez 3 cartouches, c'est insuffisant. L'entraînement annuel est encouragé, mais dans les faits, il a très peu de chances de pouvoir se faire, parce que une munition de flashball, ça coûte 8 euros, et qui est en restriction budgétaire, on fait des économies sur tout. Mais ce qui nous pose souci, nous, le flashball, dans beaucoup de situations de police, c'est une arme qui nous est parfaitement indispensable. Maintenant, bien évidemment, c'est une arme. Donc, comme toutes les armes, c'est quelque chose qui est dangereux.
Mais pour vous, hors de question de vous passer du flashball?
Pour nous, hors de question de nous placer du flashball, parce que le problème, c'est que le défenseur des droits ne nous dit pas comment on fait si jamais on se prive du flashball. Qu'est-ce qu'on fait? On utilise nos poings, on utilise un automatique 9 mm. Je ne pense pas que la situation soit améliorée avec ça.
Service flashball, Bernard Caron, sécurité. Bonjour. C'est un petit atelier en fait où il y a 4 personnes qui travaillent.
C'est ça. Oh bah, après on fait que du montage, hein. Donc effectivement tout, enfin le gros travail on va dire, il est fait sur les centres et sur les machines. Et ici après on se contente effectivement de faire de l'assemblage, de l'ajustage.
Et là il y a le grand nom au-dessus, flashball.
Il y a le grand nom flashball et il y a pas mal de flashballs prémontés qui sont en attente de futures potentielles commandes, que ce soit sur le marché français ou sur le marché export.
Et ils commandent encore des flashballs en France?
Alors en France, oui, parce qu'aujourd'hui, on continue à livrer la gendarmerie, malgré tout ce qui se dit, et qu'a priori, ils ne sont pas prêts de l'abandonner, contrairement à la police. Et en revanche, oui, aujourd'hui, on équipe beaucoup de polices municipales en France. Hein. Tout ce qui est quart sud-est, quand même pas trop mal équipé, la région parisienne est relativement bien équipée. Et puis vu le contexte actuel, il y a effectivement un besoin, une demande de la plupart des mairies aujourd'hui de pouvoir équiper ces polices municipales de façon à pouvoir graduer en fonction de la situation à gérer, clairement. On peut commencer avec un flashball et puis on peut finir avec une arme de poing si tant est que derrière, il y a un mec avec une Kalachnikov.
Et la police nationale, par contre, maintenant, elle a arrêté de s'équiper de flashball?
Elle a arrêté de s'équiper. Alors ça fait très longtemps qu'elles ont arrêté de s'équiper, parce que les marchés qu'on a signés, nous, ils sont relativement anciens maintenant.
Ça date de quand?
Ils avaient démarré en 2000 et 2002.
Avec Nicolas Sarkozy.
Ouais, ça avait démarré avec Jospin quand même. Ouais, les premières commandes de l'État étaient sous Jospin. Puis après, Sarko effectivement a voulu faire une dotation plus importante au niveau de la police nationale.
C'est-à-dire qu'au départ, c'était une arme pour les policiers d'élite plutôt.
Au départ, c'était surtout une arme en fait qui était faite pour les brigades anticriminalité.
D'accord. Les bacs.
Ouais, les bacs. Donc vraiment les gens qui sont amenés à patrouiller dans des quartiers difficiles. L'idée, c'était de pouvoir avoir une arme à létalité réduite pour pouvoir se désencercler rapidement. Voilà.
C'est pas fait pour les manifs, à la
c'est
base.
C'est pas fait pour les foules. C'est pas fait pour. On est clairement sur un usage courte distance sur le flashball. Clairement. Il a jamais été conçu pour tirer sur des mecs à 50 mètres. Le flashball, à l'époque, il a été conçu pour mettre hors d'état de nuire un individu agressif à une certaine distance. Et la distance demandée à l'époque, c'était 7-15. Entre 7 et 15 mètres. Hein. Après, nous, on n'est que fabricants. Donc nous, on répond à la demande. On nous demande de développer 150 joules à 10 mètres. Ok, on développe 150 joules à 10 mètres. On nous demande de mettre au point une arme qui soit ergonomique, qui ait deux canons, etc. Très bien. Après l'utilisation de la doctrine d'emploi, c'est plus Vernet Caron. Ça, c'est clairement le travail de la police à haut niveau pour faire les doctrines d'emploi à des armes. Et bon, un coup de flashball tiré à des distances qui sont hors doctrine, bah forcément, oui, effectivement, ça peut devenir plus dangereux. Quand un lance-grenade il n'est pas utilisé en cloche, qu'on fait un tir direct dans la tête d'un mec, bah forcément, ça fait des dégâts, quoi. Comme une voiture mal maîtrisée, elle devient dangereuse. Une voiture, elle n'est pas faite pour tuer les gens, pourtant, il y a 5000 morts par an sur les routes.
Il y a quand même eu un mort par flashball. Hein.
Ouais, alors ça, encore une fois, moi, faudrait me le prouver, quoi.
C'était à Marseille. Hein.
Ouais, mais faudrait me le prouver.
Qu'il est mort.
Qu'il est mort, il est mort, certes. Mais est-ce que c'est le flashball qui a provoqué la mort?
Ça pourrait être quoi d'autre?
Malformation cardiaque, vous en savez rien. Enfin, je veux dire. Et puis après, je dis systématiquement, mais les politiques commencent à le dire, donc je suis content, mais le risque zéro n'existe pas, quoi.
Parce que du coup, quand même, suite aux blessés, il n'y a pas que des associations qui ont décrié l'arme.
L'IGPN, bien sûr. Première version, oui, au-delà de 15 mètres, effectivement, il n'était pas conçu pour ça. Donc la demande ayant évolué et les doctrines d'emploi ayant évolué, on a fait évoluer toute la gamme du flashball. On a créé le Flashball Super Pro 2, qui est clairement plus précis que son prédécesseur. Mais on répond à une autre demande.
Et avec ça, les policiers devraient plus crever des yeux.
Avec ça, les policiers devraient, oui, effectivement. Encore une fois, je vous dis, le risque zéro n'existe pas. Et que ce soit le flashball, que ce soit le LBD-40 ou le lance-grenade, on n'est jamais à l'abri, effectivement, d'une bavure.
D'un côté, des policiers venus soutenir leurs collègues. De l'autre, des militants anti-flashball. Le tribunal vient de reconnaître le gardien de la paix coupable. 1 an de prison avec sursis pour violence volontaire sur Geoffrey, blessé grièvement par un tir de flashball.
Quand ça fait bang, bing.
Insuffisant pour la peine.
Oh là là, oh là là.
Voici Nassur, 9 ans. Victime d'un tir de flashball vendredi.
Quand ça fait bang, ça me met dans tous mes états. Quand ça fait bang.
D'un côté les CRS.
Oh là là, oh là là.
De l'autre une centaine d'ultras du club de foot de Bastia.
Quand ça fait bling bling. Oh j'adore ça. Dieu n'a pas inventé le feu pour se brûler les doigts, pour réchauffer les amoureux, mais pour qu'on ait le droit d'avoir une arme à feu. Que c'est beau, même à froid. J'adore les armes à feu, qu'on nous donne le droit d'avoir une arme à feu, d'avoir un fusil chez soi.
On peut l'avoir la gamme?
Oh, la gamme, on peut l'avoir, ouais. Qu'est-ce que j'ai de sorti là? Là, on a le Super Pro 2, donc. Ça, c'est le plus actuel, donc voilà, qui intègre le fameux Rai Picatinny.
C'est un double canon?
C'est un double canon superposé, tout en aluminium. Une poignée, une crosse et la poignée pistolet dans la main, vous avez 3 points d'appui. Forcément, vous avez 1, 2, 3 points d'appui, mais vous êtes plus précis.
C'est surtout que c'est dissuasif, quoi, ça ressemble quand même vraiment.
Et c'est ce qu'on demandait au flashball au départ. On voulait avoir quelque chose de dissuasif pour que les gens, en face, restent tranquilles.
Un des problèmes au tout début, c'est que ça ressemblait un peu trop à un jouet.
Les premiers flashballs, oui, les premiers flashballs qui étaient en version composite, oui. Et là, la police nous a redonné un nouveau cahier des charges. Donc plus costaud, canon superposé de préférence, pour des tirs à telle distance à 10 mètres, 150 joules d'énergie développée, il fallait être précis dans un cercle de 40 cm. Ok, mais on y a répondu.
ça faisait la détonation entre guillemets d'un calibre 12 de chasse. Donc ça faisait du bruit. Donc on avait l'aspect dissuasif du double calibre, du calibre 44, après on avait la détonation, puis voilà, puis après il y avait le coup de poing. Et puis le mini pro, le tout petit.
Ça c'est plus gros.
Alors rien sur autre chose, là vous avez un lance-grenade. Et là ce serait le lanceur de 40 de Vernet Caron. Donc qui n'est pas commercialisé pour l'instant en France. C'est partie des prototypes qu'on est en train de finaliser aujourd'hui.
Le lanceur de 40, c'est un peu le cousin du flashball, quoi.
En fait, il y a des éléments communs, mais il n'a rien à voir. On est sur quelque chose de beaucoup plus lourd. On ne demande pas du tout la même chose.
C'est quoi, là ?
Sur le lanceur de 40, on demande de tirer plus loin et de plus précis.
C'est le tout dernier modèle de flashball. Ce LBD, lanceur de balles de défense, envoie des projectiles à plus de 300 km/h. Une arme utilisée par les policiers lors des dernières manifestations, mais aujourd'hui controversée. En théorie, avec cette arme, les policiers sont censés viser le thorax exclusivement. Pourtant, 21 personnes auraient été éborgnées depuis 2004.
Jusqu'à maintenant, celui qui tire le plus loin est lance-grenade, parce qu'on tire des grenades lacrymogènes à 150-200 mètres. Quand on veut disperser la foule, on tire de la grenade. On tire de la grenade en cloche, le CRS tire des grenades. Après, pour mettre hors d'état de nuire un individu agressif à 40, 50 mètres, 30 mètres, on va utiliser le lanceur de 40. Et le flashball, lui, était vraiment sur l'action courte distance. Et aujourd'hui, la police souhaite mettre le LBD 40 en courte distance. Donc, ce qui fait que les policiers vont avoir deux munitions de 40 demain. Ils vont avoir une munition courte portée et une munition longue distance. Il faudra pas qu'ils se trompent, parce que la longue distance à courte distance, elle fera très très mal. Voilà, il suffit que cette partie se retourne et que vous la prenez dans l'œil, ça vous découpe bien comme il faut l'œil. Le projectile de flashball, ça reste une balle. La balle, peu importe comment elle arrive, ça restera une balle, un objet sphérique. Munition de 40, on est sur une demi-sphère, donc si jamais la munition arrivait de travers ou en biais ou qu'elle se retournait complètement, avec la vitesse, c'est un gros morceau de plastique dur que vous prenez. D'où, moi je considère que le 40 est beaucoup plus dangereux que le flashball.
Et c'est ce dont va être équipée la police, et déjà équipée la police.
C'est le choix qui a été fait, oui.
J'adore les armes à feu. J'adore les armes à feu, à l'envers, à l'endroit.
Bonjour Jacques Toubon. La recommandation que j'ai prise la semaine dernière, elle consiste à dire, en ce qui concerne le flashball Super Pro, qui est une arme dangereuse parce qu'elle est très imprécise.
Il n'y a pas de viseur.
On nous en a jamais demandé jusqu'à maintenant. Donc après, à comparer un lanceur de 40 comme le fait le défenseur des droits, en disant, bah oui, le flashball, il n'y a même pas possibilité de viser, il n'y a pas de viseur, bah oui. En même temps, qu'il y ait des charges de l'époque, nous ne l'a jamais demandé. Demain, on demande un flashball Super Pro 2 avec un viseur, je sais faire. Et je sais mettre une crosse, et je sais mettre une poignée, je sais le rendre plus précis.
Mais on ne voulait pas demander.
Mais on ne me demande pas. Bah non, on préfère acheter en Suisse.
Parce que le LBD 40, il est fabriqué en Suisse.
Bah oui. Et les munitions venaient des États-Unis sur les premières commandes. Alors qu'on a plein de savoir-faire en France.
Du coup, maintenant, vous en avez développé hein, aussi de LBD.
On se met dessus aussi, vu que c'est la demande. Mais le premier produit qu'on pousse chez Vernet Caron, ça reste le flashball.
Et vous en avez vendu combien, des flashballs ?
Le parc mondial du flashball. Moi, j'ai tendance à dire une centaine de milliers.
100 000 ?
Ouais.
Ça marche bien, quand même.
Bah, c'est une réussite française. Hein ? Ben ouais. Donc, c'est une bonne diversification, permise par la société Vernet Caron à l'époque.
Et du coup, les principaux marchés maintenant, c'est pour le département sécurité ?
C'est l'Asie, du Sud-Est. Ils ont fait un grand pas hein, quand même dans ces pays-là, parce qu'avant, ils faisaient la gestion de foule au M16 et ça faisait beaucoup de morts.
C'est une sorte d'avancée démocratique, quoi.
Oui, clairement. Même si ça peut prêter à sourire, oui. Enfin, Kenya, Mozambique, même l'Afrique du Sud, c'est pas. Il y a des choses à faire de partout.
Mais eux, ils utilisent des flashballs, ils n'utilisent pas des balles réelles.
Alors, il y a les deux. Mais nous, on essaie de leur faire comprendre que comme le flashball, c'est quand même mieux, quoi. C'est mieux que la AK-47, quand même, pour faire du maintien de l'ordre. Mais la diplomatie française, elle a un rôle à jouer là-dessus aussi. De faire évoluer les mentalités de certains pays pour pour les faire aller vers des moyens de force intermédiaires et des armements à létalité réduite.
Vous êtes de travailler de concert avec la diplomatie française?
De temps en temps, ouais, sur certains pays, ouais. On n'a jamais été mis vraiment en avant par le gouvernement, surtout l'actuel. Non, et c'est dommage d'ailleurs, parce que la France a un vrai savoir-faire en termes de maintien de l'ordre, de gestion de foule, et c'est vrai qu'il est, hélas, rarement mis en avant. Surtout actuellement. Ah, c'est pas bien, fabriquer des armes et tout ça, c'est moche. C'est sale. C'est pas bien.
Hashtag procès 8 juillet. Joaquim Gatti à la barre.
La version policière est très éloignée de la vérité.
Hashtag procès 8 juillet.
Michael Gallet, le policier, assume son tir. Si c'était à refaire, je le referais.
Hashtag procès 8 juillet. Le policier pouvait-il ignorer avoir touché quelqu'un ? Voisin. Non. Le blessé était en face de lui. Au sol, en position fœtale, il hurlait. Hashtag procès 8 juillet. Reprise des audiences. Hashtag flashball. C'était une action de police efficace, ose dire le policier à l'homme qui l'a mutilé. Hashtag procès 8 juillet. Michael Gallet assume ses tirs sans ciller.
Hashtag procès 8 juillet. You have a new message. Fin de l'audience, reprise demain 9h30.
Et là, en ce moment, il y a un procès un peu, c'est un peu le procès du flashball.
C'est pour ça que vous venez, en fait.
Mais c'est vous, c'est de votre fait. Vous étiez disponible à ce moment-là.
Ouais, ouais.
Donc en 2009, à Montreuil, il y avait des policiers qui avaient tiré avec le flashball Super Pro sur des gens.
Dans quelles circonstances? Je sais pas, j'étais pas là pour voir.
C'était suite à l'évacuation d'un squad.
Oui, ça, je sais, le contexte, je le connais. Après, voilà, est-ce que la doctrine d'emploi a été respectée? Est-ce que les personnes qu'on tirait... Étabilité, je suppose que oui. Est-ce qu'elles étaient entraînées
La BAC,
ouais.
Donc...
Ouais, mais je sais pas. Mais encore une fois, oui. Mais bon, après, combien de munitions ils tirent par an?
Il y en avait un, paraît-il, c'était un champion de tir.
Un champion de tir de flashball?
Un champion de tir tout court.
Moi, je parle de mon expérience de chasseur. Je sais que si je vais pas chasser très très souvent, je rate tout. Et on est tous pareils, hein. C'est de l'entraînement.
Mais du coup, à Montreuil, ce jour-là... Il y a eu 6 personnes touchées et les 6 c'était au-dessus du thorax, donc normalement là où on ne devrait pas tirer. Et dont un a perdu un œil. Et là, il y a le procès des 3 policiers cette semaine. Et les policiers disent mais c'est la faute de l'arme.
Ouais, voilà. Mais moi, je veux dire c'est la faute du policier. Puis après, on peut se renvoyer la balle sans s'étendre comme ça, puis on n'avance pas. Moi, je dis qu'il y a un manque de formation aussi. Je dis qu'effectivement, le flashball, on lui reproche beaucoup de choses, mais on met souvent et systématiquement en avant. Entre guillemets, ce qui va pas, et par contre, tout ce qu'il a permis de faire, et on n'en parle jamais. D'éviter de blesser, d'éviter de donner la mort, etc. Et tout. Mais systématiquement, effectivement, c'est ce qui va pas qu'on met en avant.
Mais enfin, vous êtes quand même encouragé par le gouvernement, vous touchez, j'imagine, le CICE, comme beaucoup d'entreprises.
Non, mais non. Oui, bah oui, certes, oui. Oui, mais en même temps, il était temps de faire quelque chose pour les charges des boîtes. Hein. Oui, CICE, Crédit Impôt Recherche, oui, oui. Oui.
Hashtag procès 8 juillet. Joaquim Gatti.
Ma vie a été bouleversée.
Hashtag procès 8 juillet. À la barre, Nathalie T, mère de Quentin, qui a perdu un œil à Nantes le 22 février 2014 à cause du flashball. Hashtag procès 8 juillet. Les flics continuent à fermer les yeux et à se boucher les oreilles.
Le procureur Loïc Pajot n'a pas caché qu'il avait eu un peu froid dans le dos en entendant la version des policiers sur leur usage très particulier du flashball, choqué apparemment de voir des gardiens de la paix affirmer qu'ils ne connaissaient pas la dangerosité de cette arme en 2009. Et surtout, il ne les a visiblement pas crus une seule seconde. Toute sa démonstration, son réquisitoire, n'était qu'une accumulation de doutes empilés les uns après les autres sur la version des prévenus, leur déposition initiale. Et le procureur n'hésite pas alors à parler de possibles mensonges concertés La pluie de projectiles reçue ce soir-là, y compris des mortiers de feux d'artifice inexistants. Les victimes qu'ils n'ont pas vues à moins de 10 mètres, qu'ils n'ont pas entendu hurler de douleur. Comment est-ce possible? Pour Loïc Pajot, les trois policiers à la barre du tribunal de Bobigny ont clairement fait un usage illégitime de la force. Il n'y avait selon lui aucune nécessité et encore moins de danger proportionnel à l'usage d'un flashball, ce qui constitue la base de la légitime défense et l'argument principal des accusés. Un peu plus tôt dans l'après-midi, l'avocate des parties civiles avait dénoncé une chasse gratuite à l'anarcho aux anarchistes de l'ultra-gauche de Montreuil ce soir-là du 8 juillet 2009 pour leur faire passer l'envie de manifester. À Bobigny, Emmanuel Leclerc, France Inter.
Hashtag réquisitoire du procureur. Le GAL, 3 ans de sursis, 3 ans d'interdiction professionnelle, 5 ans sans armes. Galet plus Vanderberg, 10 mois de sursis, 18 mois d'interdiction professionnelle, 15 mois sans port d'armes. Hashtag collectif du 8 juillet, l'affaire mise en délibéré et jugement rendu le 16 décembre à 9h30 en salle d'assises numéro 1.
Alors, retour à Montreuil. Après un rassemblement mercredi à quelques pas d'ici sur la rue piétonne, une visite de l'usine Vernet-Caron à Saint-Étienne et une semaine de procès à Bobigny. Alors là, vous êtes quatre du collectif 8 juillet, quatre plaignants autour de cette table. Qu'est-ce que vous avez pensé du procès? Alors bon, le délibéré est attendu pour le 15 décembre, mais qu'est-ce que vous avez pensé du déroulement alors de l'audience, des audiences?
Bon, la première chose qui est une manipulation politique, médiatique et aussi éventuellement industrielle concerne la question de l'imprécision du flashball Super Pro, qui est en effet l'arme qui est en question spécifiquement dans le procès qui a eu lieu cette semaine. Il y a eu beaucoup de déclarations sur le fait que de toute façon cette arme est allée être abandonnée justement parce qu'elle est imprécise et qu'elle crée beaucoup de dégâts entre guillemets collatéraux. À ça, on répond une chose très précise, à savoir qu'il existe en effet déjà un autre type de flashball dont le nom est le LBD-40 qui elle est extrêmement précise et qui a fait déjà énormément de blessés graves et de personnes mutilées. C'est le cas notamment de Pierre Douillard qui est venu témoigner lors de ce procès. C'est aussi le cas de Geoffrey Tidjani dont le père Christian est venu témoigner lors du procès. Donc première chose, disons, pour préciser un peu les choses qui est importante pour nous parce que on se sentirait un peu floué quoi si cet argument de l'abandon du flashball semblerait une réponse à notre inquiétude ou à notre combat quoi.
Hashtag procès 8 juillet. Quelle arme demande l'assesseur? Un LBD-40. Tollé dans la salle. Interruption de séance. Hashtag collectif du 8 juillet.
L'autre chose, sur la question du flashball en tant que tel, et sur cette articulation entre, disons, l'arme et son tireur, quoi, et de savoir quelle est la responsabilité entre l'arme et celui qui appuie sur la gâchette, quoi. C'est clair que le flashball en tant que tel, c'est une arme qui est concomitante des déclarations de Sarkozy sur ces racailles qu'il faudrait nettoyer au Karcher, quoi. On peut dire que c'était un peu le Karcher avec lequel on nettoie les jeunes des banlieues, toute une série d'endroits où à un moment donné, on dit aux gens de rentrer chez eux, quoi. Donc, il y a une sorte d'idéologie, mais cette idéologie, elle participe du flashball en tant que tel. Les bacs, par exemple, qui les ont beaucoup utilisés ces 20 dernières années, on peut dire, sont tout autant traversés par ce type d'idéologie. Et d'ailleurs, pour nous, le flashball et les bacs, c'est deux choses qui vont vraiment ensemble. Après, le fait qu'elle ait été appelée arme non létale, clairement, fabrique une forme de désinhibition très claire. Et c'est là peut-être où cette arme est extrêmement dangereuse et, disons, favorise une banalisation très forte de la violence. C'est que, avec cette arme, de nouveau, les policiers se disent qu'ils peuvent tirer sans conséquences fatales. On voit que c'est pas le cas. Et puis, juste une dernière remarque. Tout au long du procès, il a souvent été dit, autant par les experts, par les policiers, par les formateurs et par l'avocat de la défense, que c'était une arme qui était équivalent à un coup de poing. C'est l'argument de vente de Vernet-Caron. Ça a fait mouche chez la police et tout le monde leur reprend jusqu'aux experts. C'est complètement aberrant, quoi. C'est juste une arme à feu qui mutile. Nous, on appelle ça des armes mutilantes et qui éventuellement tue. Voilà.
Hashtag réquisitoire du procureur. Le proc Pajot rappelle qu'on compte déjà au moins un tué suite à un tir de flashball. Pajot. Le gars l'a tiré dans le tas. Hashtag collectif du 8 juillet. Cette fois, ce n'est pas nous qui le disons.
Quand Vernet Caron dit que le problème, c'est les policiers qui savent pas s'en servir et que les policiers disent que c'est un problème d'imprécision de l'arme, les deux sont effectivement dans une hypocrisie. Quand ils disent, par exemple, qu'il y a une non-formation des policiers au flashball, c'est faux. Ils l'ont bien dit au procès. Ils ont bien dit qu'ils étaient formés à mater les suites des émeutes et à intervenir chez ces barbares de Seine-Saint-Denis en tirant dans le tas, en tapant tout le monde. Enfin, c'est ça leur pratique quotidienne dans ces trucs-là. Et ils sont vraiment formés pour ça. Après, là, ils sont en train de s'en débarrasser a priori. Ils vont mettre le LBD 40. Ils insistent sur sa précision. Mais encore une fois, c'est surtout une arme plus puissante, quoi. Enfin, dans notre histoire, s'il y avait eu un LBD 40, peut-être qu'il y aurait eu juste 5 éborgnés et pas juste un, hélas. Enfin, ce qui leur plaît, malgré tout, c'est la puissance de cette arme, ce truc viril. Enfin, voilà, quoi.
Le LBD, son usage a démontré qu'il mutilait tout autant, qu'il blessait tout autant, puisque en 10 ans d'usage du LBD, il a blessé autant que le flashball depuis son introduction, c'est-à-dire au milieu des années 90, et donc depuis 20 ans. Donc c'est la preuve est faite qu'une arme plus précise mutile plus, blesse plus.
Mais c'est pas que le LBD 40 avec lequel ils veulent le remplacer. C'est aussi avec les grenades de désencerclement, c'est les gaz lacrymogènes. Enfin, c'est tout cet attirail hyper militarisé avec lequel ils sont en train d'armer la police. Et du coup, alors effectivement, les mecs ils croient qu'ils sont en guerre. Oui, il y en a une guerre, mais elle est sociale. C'est leur guerre qui mène dans la rue. Et nous, on en a été victimes, entre guillemets, mais tous les jours, les gamins dans les quartiers, ils se font courser par les gars au flashball. Voilà, quoi.
Après, pour revenir sur la loi travail, une chose qui est assez évidente, c'est que la police a nassé de manière impitoyable ce mouvement pour le contenir, l'empêcher de déborder, puis finalement faire passer la loi par décret. C'est clair que pour nous, le flashball et le 49-3 sont deux choses qui vont tout à fait ensemble, quoi. Pour chaque 49-3, combien de tirs de flashball il faut tirer? Si la police n'avait pas exercé une violence si forte contre le mouvement social, je pense que la réforme de la loi travail ne serait pas passée. Simplement, c'est que là, aujourd'hui, les choses se règlent policièrement.
Et c'est possible de voir comment ça marche, les flashballs?
Ah bah comment ça marche, fastoche, hein. Crac, crac, crac. Petite munition, je vais la tirer là, je m'en fiche.
Oh, je vais la tirer là, dans les mains.
Ah, t'as un peu de bruit, mais c'est pas grave. Vu que c'est non létal, on risque rien du tout.
J'avais une personne qui travaillait avec moi qui voulait que je me fasse tirer dessus pour être sûr que ce soit non létal.
Ouais, mais ça c'est vous qui voyez, hein. C'est votre problème, hein.
Je préfère vous demander à vous, c'est vous qui les fabriquez. Qu'est-ce que je risque?
Oh bah, un petit bleu quand même, hein. Ouais.
Pas plus?
Un petit bleu. Ah, bon petit bleu. Ouais. C'est pas forcément une bonne idée. Hein. C'est fait pour les gens agressifs, vous êtes pas agressifs. Venez, on va faire du bruit. Je vais décharger l'arme, je vais éviter de me balader avec une arme chargée.
Au stand de tir, oui, c'est une partie du bâtiment en fait, c'est le stand de tir.
Toutes les armes de chasse qu'on fabrique sont toutes testées. Ce qu'on va faire, on va tester live.
C'est toutes les différentes balles, Magnum,
28. C'est le monsieur là qui est en charge de tester les armes.
Ouais.
C'est une cible qui représente un monsieur qui a une arme à la main.
Ça, c'est la dernière version. Là, c'est sur le Flashball Super Pro 2. Donc attention les oreilles. Voilà. Point visé, point touché. Hein, hein, en plein dans le thorax. Hein.
Ouais, thorax, ouais.
Bruno, il s'entraîne.
Vous, pour arriver à des tirs comme ça, vous entraînez régulièrement?
Non, enfin ouais, on teste les armes, voilà. Après ça revient un peu comme le permis de conduire, hein. Voilà, hein. On a le permis de conduire, mais c'est pas forcément qu'on sait conduire. Donc, j'ai envie de dire que l'utilisation du flashball, c'est à peu près pareil. Hein.
Vous travaillez ici depuis combien de temps?
1992, février 91.
Quasiment en même temps que le flashball, quoi.
Quasi en même temps, ouais. Je suis arrivé en même temps que le flashball. Donc j'ai suivi toute l'évolution du départ qui était fait pour le grand public, pour le boulanger, et voilà, et qu'après ça a décliné vers les forces de l'ordre. Depuis 2011, je suis responsable du service flashball au niveau montage.
Et alors vous, vous en pensez quoi de toutes ces polémiques autour de cette arme du flashball?
Alors l'avis du salarié de chez Vernet-Caron, ben voilà, hein, on essaie de faire des efforts et c'est vrai qu'ils ne sont pas reconnus, enfin les gens ne viennent pas vers nous pour voir les efforts qu'on a fait au niveau de l'amélioration du produit. Après, le citoyen que je suis, je dis que ben voilà, on renforce quand même la police et la gendarmerie avec des armes de guerre. Donc ben, voilà, la table est mise. Hein.
Jamais à l'abri, effectivement. Une bavure. Après, c'est qu'est-ce qu'on est prêt à accepter, quoi. Quand on prenait un cocktail Molotov, une pierre, deux pierres, trois pierres, ça va, au bout d'un moment, je comprends que les mecs, ils craquent. Quand on voit la patience de certains fonctionnaires de police, je les admire. J'admire leur calme, leur flegme. Pas donné à tout le monde. Pas si je réagirais comme ça, moi.
Donc ça, c'est celui-là là, qui a été testé avec la crosse, ouais, c'est le Flashball Super Pro.
Super Pro 2, ouais.
C'est quand même vraiment...
Ça reste impressionnant. Bah, le lanceur de LBD-40 est tout aussi impressionnant. Et les 40 mm, en plus, c'est un calibre de guerre.
C'est le genre d'arme qui n'est pas fait pour rapprocher police et population, quoi. C'est fait pour dire on est en guerre contre la population, quoi.
Ouais, enfin, c'est... Oui. Bah, malheureusement, nos sociétés ont un peu évolué. On vient plus de violence.
Et les prochains marchés au niveau de la sécurité, alors?
Le prochain salon, c'est la Côte d'Ivoire. Tout le monde y sera. Ils ont de gros besoins.
C'est bon, je referme. Allez.
Que veut cette horde militaire de traîtres et de rois conjurés quand ils nous traînent, quand ils nous traitent de cons, de braves, de pauvres français, quoi? Ces cohortes étrangères feraient la loi. Dans nos foyers, quoi, nos flics, soldats, mercenaires, alors qu'on est tous étrangers. L'État comprime et la loi triche, l'impôt se rit des malheureux, nul devoir ne s'impose aux riches, le droit du pauvre est un mot creux, des preuves qui se ramassent à l'appel, l'égalité n'existe pas, pas de droit sans devoir, dit-elle, égaux à la naissance, parfois, liberté libre. Chérie, ceux qu'on la thune n'ont que l'odeur, amour sacré de la patrie et la fraternité se meurt. Et ta fraternité se meurt.
Fauteur de troubles, flashball, en tout cas, preuve est faite que le maintien de l'ordre peut facilement glisser vers la répression brutale. Or, même l'OCDE nous le rappelle, notre société n'a jamais produit autant de richesses et elle a rarement été aussi inégalitaire. Les 10% de Français les plus riches, ceux que les candidats à la primaire veulent soulager de l'ISF, détiennent 50% du patrimoine, alors que les 40% les plus pauvres se partagent 2%. Il est sans doute illusoire de croire que nous pourrions avoir l'ordre sans la justice. Une occasion pour nous de nous associer à tous ceux qui réclament la justice pour Adama Traoré et sa famille à Beaumont-sur-Oise.
C'était Comme un bruit qui court. Toutes les informations sont sur le site de France Inter. Laissez-nous des messages, abonnez-vous au podcast et faites courir le bruit, que le bruit court. Hashtag Comme un bruit. Merci à Emmanuel Leclerc, envoyé spécial de France Inter au tribunal de Bobigny, à lire dans la revue dessinée Flashball, Corriger le tir ou la saga des Vernet-Caron. Juste après les infos, prenez les routes de la musique avec André Manoukian.